RJB Info.
Et on s'informe dans le journal avec vous, Anthony Montandon, bonjour.
Bonjour, savez-vous qui est Denise Binchedler-Robert ? Cette juriste est née il y a exactement 100 ans à Saint-Imier. Et pour l'occasion, la commune a décidé de renommer une rue en son honneur. On vous dévoile le parcours de cette femme à la carrière internationale dans quelques instants. Plus ludique et davantage au goût du jour, le centre visiteur chez Camille Bloch s'adapte à la clientèle. Des nouveautés ont été présentées ce matin. Cet été, RJB s'intéresse aux jeunes talents sportifs de la région. Tous les vendredis, un nouveau portrait d'athlète sera dressé. On commence cette série aujourd'hui avec Jocelyne Vinde, coureuse de Sonsbeau. Le temps chaud sera quelque peu rafraîchi aujourd'hui par le vent. Des nuages sont aussi là par endroits. Température en frise avec les 30 degrés. Saint-Imier rend hommage à une femme de renom. Aujourd'hui, la municipalité a décidé de rebaptiser une rue au nom de Denise Binchedler-Robert. Cette juriste spécialiste en droit international humanitaire et des droits de l'homme est née à Saint-Imier le 10 juillet 1920, soit il y a tout juste 100 ans. Retour sur son parcours avec Martha Duarte.
Après une enfance à Saint-Imier, c'est au sein des universités de Lausanne et de Berne que Denise Binchedler-Robert étudie le droit. Elle est admise au barreau en 1945. Durant les années qui suivent, elle est fonctionnaire à la direction politique du département fédéral des affaires étrangères avant d'obtenir son doctorat avec une thèse sur la neutralité suisse. La juriste enseigne ensuite le droit international à Genève pendant de nombreuses années. En 1966, Denise Binchedler-Robert devient la première femme à être élue au conseil synodal de l'Église catholique chrétienne suisse, dont elle est membre jusqu'en 1985. Elle assure par ailleurs la vice-présidence du comité international de la Croix-Rouge et siège à la Cour européenne des droits de l'homme. Denise Binchedler-Robert aura à présent une place de choix à Saint-Imier. L'actuelle rue des Roses, en bordure de l'Église catholique chrétienne, portera désormais son nom.
La municipalité a dévoilé ce matin une plaque commémorative à l'occasion d'une cérémonie. On en parle dans le journal de 18h. Les bons pour les commerces de Lanneville font un carton. L'action avait été lancée par la municipalité début mai. Elle permettait pour les habitants d'acheter des bons avec un rabais de 10% auprès du service des finances pour les utiliser dans les magasins de la commune. Les commerçants peuvent ensuite les échanger avec une plus-value de 20 ans. Cette action s'est terminée hier. Au final, environ 600 personnes en ont acheté pour un montant se chiffrant dizaines de milliers de francs, estime l'administrateur des finances de la commune. Ce dernier ne donne toutefois pas de chiffre exact. Quelques petites nouveautés attendent les visiteurs chez Camille Bloch. L'entreprise de chocolat de Courtelary a convié la presse ce matin pour présenter les réaménagements faits sur son parcours découverte. Depuis son inauguration il y a 3 ans, plus de 220 000 curieux ont profité de cette offre qui met en lumière les activités et l'histoire de la chocolaterie. Malgré ce succès, Camille Bloch a décidé avant la crise déjà de faire certaines adaptations scénographiques pour rendre la zone accessible à un large public. Joëlle Vuillem, directrice du centre visiteur chez Camille Bloch.
On a effectivement amélioré le parcours visiteur avec différentes zones afin de permettre un peu aux tendances actuelles. D'une part, on a rajouté une partie sur la durabilité, qui est un sujet vraiment à la mode. D'autre part, on a changé une zone pour la rendre beaucoup plus ludique, beaucoup plus accessible pour notre public qui est composé essentiellement de familles ou de grands-parents avec des enfants. Donc une zone beaucoup plus rigolote, on va dire, et qui parle quand même de la gestion de l'entreprise et de l'état d'esprit en fait, qui règne chez nous, de façon facile à comprendre.
Vous aviez remarqué que ce poste n'était pas assez accessible pour tout un chacun ?
Tout à fait. Avant, c'était un poste qui avait été scénarisé d'une manière un peu conceptuelle, pas compréhensible sans l'aide d'une guide. Alors que nous, notre parcours, il doit pouvoir se faire sans guide. On a bien sûr la prestation avec guide, mais on doit pouvoir aussi comprendre toute l'histoire, toute notre philosophie de façon individuelle.
Des propos recueillis par Natacha Mengoli. Une escape game devrait également s'ajouter à l'offre de chez Camille au mois d'août. De nouvelles prestations qui visent évidemment à dynamiser les activités de l'entreprise chocolatière touchée par la crise comme tout le monde. Les chiffres montrent une perte d'environ 30% sur les ventes par rapport à l'année passée. L'entreprise a dû recourir à la réduction de l'horaire de travail pour ses collaborateurs. Ces mesures de RHT doivent normalement se terminer fin juillet, a indiqué Camille Bloch ce matin. Le gouvernement bernois serre la vis pour éviter la propagation du coronavirus dans les boîtes de nuit. Il sera désormais indispensable de donner son nom, adresse, numéro de téléphone et e-mail pour pouvoir espérer pénétrer dans les discothèques. Et ce, dès ce soir. Ces informations doivent être vérifiées au moyen d'un document officiel et le numéro de portable contrôlé, précise le canton. Les coordonnées seront classées par jour et conservées dans une liste électronique. Le PDC suisse sort la grosse artillerie pour revisiter son appellation. Vous savez qu'il envisage de supprimer le C et la référence chrétienne. Le nouveau nom pourrait être le Centre ou Liberté et Solidarité. Afin d'éviter de passer en force, comme l'aurait souhaité le président Gerhard Pfister, le PDC va consulter tous ses membres. Ils sont quelque 80 000 cotisants dans le pays. Le calendrier n'est pas arrêté. Le vote pourrait n'intervenir que l'hiver prochain. Le PDC entend aussi tirer parti de la consultation interne pour s'offrir de la visibilité. Écoutez le vice-président du PDC suisse, le conseiller aux États jurassiens, Charles Juillard.
C'est vraiment une forme de référendum interne au parti où seuls les membres du parti pourront voter. Dans les détails, on n'a pas encore finalisé la procédure, mais c'est tout à fait conforme à nos statuts de pouvoir prendre une décision, faire prendre une décision par nos membres par une votation interne.
Est-ce qu'elle se fera, on sait déjà, sur un support électronique, par Internet, ou est-ce que vous ferez un courrier, les gens voteront par correspondance?
On n'a pas encore défini les modalités exactes, mais ces deux variantes sont effectivement envisagées. L'idée maintenant, c'est vraiment de consulter l'ensemble des membres des PDC qui sont inscrits soit dans les partis cantonaux, soit auprès du Parti suisse ou des différentes associations affiliées au Parti suisse. Il est probable, mais ce n'est pas encore définitif, que nous formulions des propositions avec peut-être un choix multiple.
Des propos recueillis par Serge Jubin, le PDC a déjà effectué un sondage auprès de ses membres et 53% estiment que la référence chrétienne est un obstacle au recrutement de nouveaux électeurs. À l'étranger, l'Union européenne voit d'un mauvais œil la reprise des exécutions fédérales aux États-Unis. La pratique est pourtant suspendue depuis 2003, mais le président Donald Trump avait annoncé l'an dernier sa volonté de renouer avec cette possibilité pour les tribunaux fédéraux de condamner quelqu'un à mort. Cette décision va à l'encontre de la tendance générale d'abolition de la peine capitale dans le monde, a indiqué l'UE. Et Israël doit renoncer à toute annexion des territoires palestiniens. C'est l'appel d'Emmanuel Macron au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le président français estime que ce projet nuirait à la paix et est contraire au droit international. La France n'est d'ailleurs pas le seul pays à s'élever contre le plan esquissé par les États-Unis pour Israël et la Palestine. L'Allemagne, la Jordanie, l'Égypte et le Royaume-Uni ont aussi fait part de leurs craintes.
RJB, les midi 24.
Sport.
Cet été, RJB donne la parole aux jeunes talents sportifs de la région. Chaque semaine, la rédaction vous propose de rencontrer des athlètes pour évoquer leur carrière, leur regard sur la crise sanitaire, mais aussi leurs ambitions futures. Et on démarre cette série aujourd'hui en compagnie de Jocelyne Vind, la coureuse de Sonsbeau, soufflera ses 20 bougies à la fin de l'été. Spécialiste du demi-fond sur 800 et 1500 mètres, ses performances lui ont déjà permis d'être recrutée par une université américaine. Elle s'est envolée l'été dernier pour lier études et entraînement sur un campus de Boston avant que la crise ne l'oblige à rentrer en Suisse, Jocelyne Vind.
C'était vraiment un monde différent en fait, et puis c'était vraiment enrichissant et vraiment beaucoup d'expériences que j'ai pu faire là-bas que j'aurais pas pu faire en Suisse, je pense. Le premier semestre d'automne m'a vraiment plu. Après le semestre de printemps, donc quand je suis retournée en janvier, ça a été nouveau un peu différent, c'était une autre saison, donc on faisait de la salle. Par contre, ce semestre-là a été un peu plus compliqué. Après, au niveau des performances, il y a aussi eu des petits soucis d'entraînement. Et puis après, en plus, en février, on a commencé à entendre parler du Covid, et puis ça a été un peu compliqué à partir de là.
Ce Covid, finalement, il vous a fait revenir tout simplement à la maison et quitter le campus?
Oui, effectivement. En février, comme ça, on a commencé un peu à en entendre parler, mais sans plus. Début mars, on était censé faire un camp d'entraînement à Los Angeles d'une semaine. Et ils ont annoncé juste le vendredi qui précédait notre départ que ouais, pour finir, on n'allait pas partir juste au cas où. Tout le monde était vraiment fâché. Les gens ne comprenaient pas, en fait, parce que ce n'était pas encore quelque chose de vraiment sérieux là-bas. 3-4 jours après, on a entendu qu'il y a d'autres universités de la ville de Boston qui avaient déjà décidé de mettre leurs cours en ligne, alors que nous, on n'en avait toujours pas entendu parler. Le lendemain, ils ont annoncé que nous aussi, nos cours étaient en ligne jusqu'au 13 avril seulement. et que donc les gens pouvaient rester sur le campus. C'est juste que les cours seraient en ligne jusqu'au 13 avril. Le jour d'après, ils ont annoncé que toute la saison de printemps de sport en fait, était annulée, donc dans tous les sports, dans tout le pays. À ce moment-là, ok, c'était un peu la question, qu'est-ce qu'on fait ? C'était vraiment début mars, donc juste avant un peu le pic de la crise en Suisse, je me suis dit, ouais, j'ai meilleur temps de rester aux États-Unis, puis de rentrer quand ça sera calmé en Suisse. Après, c'était le jeudi matin, donc j'ai beaucoup discuté avec mes parents, et puis on a décidé, d'accord, je vais faire ça. Jeudi après-midi, il y a mon père qui m'envoie un message, mais vérifie peut-être juste les avions, comme ça. J'ai vérifié jeudi après-midi, et le dernier vol pour rentrer à Zurich était vendredi soir. Donc j'ai dû déménager en fait en 24 heures et puis enfin je suis rentrée avec le dernier avion le lendemain et une ou deux semaines après ils ont annoncé qu'en fait tout le semestre allait se faire en ligne, que le campus devait être évacué, que tout le monde devait rentrer. Et en fait ce qui s'est passé c'est que beaucoup des gens qui étaient restés sur le campus à ce moment-là n'avaient plus de vol pour rentrer.
Quand vous êtes rentrée, pour vous ça s'est passé comment ? Vous avez tout de suite pu reprendre vos marques ici, reprendre les entraînements ? Tout était quand même aussi paralysé ici au printemps à cause de la crise. Comment est-ce que vous vous êtes organisée ?
Ça a été très compliqué, surtout que dès mi-février, en fait, j'ai vraiment commencé à avoir des soucis au niveau de l'entraînement, où il y a des choses qui... On sentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. On était en train de commencer un peu un suivi médical pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait. Et juste après, il y a eu cette coupure où j'ai dû rentrer en Suisse. Je suis rentrée en fait en sachant juste que ça n'allait pas trop au niveau entraînement et que du coup, j'allais devoir changer d'entraîneur et que il fallait que je recommence un nouveau suivi ici. Bon, on ne savait pas trop ce qui se passait. Donc en fait, on a juste fait... une ou deux semaines assez tranquilles niveau entraînement. Et puis après, on a recommencé un peu à une phase d'entraînement un peu plus facile, mais juste pour recréer une base. En même temps, on a voulu un peu faire des contrôles médicaux, mais du coup, vu que c'était... Enfin, il y a tout qui était fermé, quoi. Donc j'ai contacté ma médecin qui m'a dit que malheureusement, la médecine du sport n'est pas une urgence. Enfin, ma vie n'en dépendait pas. Je ne pouvais pas venir tout de suite. On a vraiment dû attendre un moment. Après, on a pu faire des tests. On a vu que mon fer était trop bas. Après, elle m'a dit de prendre des suppléments, mais on sait que les suppléments, généralement... ça prend du temps et puis on préfère faire des perfusions. Donc il fallait y aller et puis je pouvais pas. Donc en fait, j'ai dû continuer à m'entraîner avec un fer qui était trop bas. Ça a été compliqué. Ça a juste été une phase un peu vraiment aléatoire où on essayait de faire ce qu'on pouvait avec les situations qu'on avait.
Jocelyne Vind était au micro de Natacha Mengoli. La sportive de Bilbien Athletics a trouvé depuis une certaine stabilité dans ses entraînements et travaille à son prochain objectif, les championnats d'Europe moins de 23 en Norvège prévus pour l'été 2021. Elle ne prévoit pas par ailleurs de repartir aux États-Unis mais démarrera en septembre des études en sciences biomédicales à Fribourg. Prochain point sur l'actualité, c'est dans le flash de 16h. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée.
Une journée qui va se poursuivre en musique dans quelques instants avec notamment Muse et puis on parlera encore du juste prix qui vous fait gagner 1000 francs de cadeaux. Et puis la météo avec ce temps assez bien ensoleillé encore par endroit. Par contre, attention, on a des nuages qui se font de plus en plus présents au fil de l'après-midi avec éventuellement une cellule orageuse qui pourrait s'activer ici et là. Et puis des pluies, quelques pluies qui sont à prévoir ensuite contre ce soir et cette nuit. Au niveau des températures, il fera chaud encore aujourd'hui avec un maximum de 27 degrés dans le vallon de Saint-Imier, 28 pour Tavannes et Tramelan, 29 à Moutier et La Neuville et on ira même jusqu'à 30 degrés pour Delémont et Bienne. Notez encore que dans la suite, les experts de Météo News prévoient pour demain un temps nuageux le matin avec une amélioration et le retour de larges plages de soleil sur la plaine. Ce sera prévu pour la seconde partie de journée. Le ciel restera par contre plus partagé dans le Jura avec quelques gouttes encore possibles. Il fera par contre plus frais, pas plus de 19 à 22 degrés.